M.
Are you recording?
You are?
Oh. Can you press stop?
Alors, bon matin et bienvenue sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous écoutez le lendemain de la veille pour le 23 novembre. Et nous avons aujourd'hui, comme d'habitude, Ramon Vitesse avec sa chronique hebdomadaire. Mais il a un invité spécial avec lui. On est très heureux d'accueillir dans notre studio virtuel Christian Quesnel. Alors, bon matin tout le monde.
Bonjour Tamara, merci beaucoup. Alors, Christian Quesnel, c'est pas le moindre BDiste au Québec, loin s'en faut, vous allez le voir, c'est un garçon discret. Peu de gens connaissent ou ont vu ensemble sur son œuvre, mais quand même, ça fait une trentaine d'années facile que Christian Quesnel agit à titre de BDiste professionnel. Disons d'emblée que c'est quelqu'un qui met l'emphase sur l'exploration et ses influences sont extrêmement diverses. Peut-être qu'on pourrait commencer avec ça pour présenter Christian Quesnel, qui, peut-on le préciser, vient de la région de l'Outaouais. C'est quelque chose qui marque aussi son parcours. Tes influences, Christian. Je te tends le micro. Non, mais je te pose cette question piège-là, c'est que j'ai lu en quelque part que tu avais 2 mètres dans le niveau du manga et que Hugo Pratt était aussi une influence marquante et que, contrairement à la majorité des BDistes québécois, la BD franco-belge n'avait pas été trop de soupe aux alphabets.
Ben, disons que tu as raison. Mes premières inspirations sont comme on dit à Go Nagai, qui est un mangaka qui écrit, bon, tout le monde connaît Goldorak au Québec. Puis tout le monde connaît aussi Albator, donc qui est écrit par Leiji Matsumoto. C'est des influences que j'ai eues très jeune, enfant. Je crois pas que ce soit encore perceptible dans mon travail. Quoique, des fois, on dit des pages à la manga dans mon travail. Mais je te dirais que oui, j'ai survolé la bande dessinée franco-belge plus rapidement que d'autres auteurs qui ont j'ai quand même.
Et Hugo Pratt, t'avais attrapé ça où? T'avais attrapé ça dans Pif Gadget, tu imagines?
Même pas. J'avais attrapé ça à la bibliothèque de mon école secondaire. Je suis tombé chercher un livre. Puis je suis tombé sur un livre qui était plus grand que les autres dans les livres de littérature. Qui n'était pas dans la section BD. C'était la balade pendant sa vie, au crâne. J'ai trouvé ça, j'avais 14 ans, puis ça a complètement changé ma vision de la bande dessinée à ce moment-là. Oui, j'en ai lu de franco-belge, mais on parle des influences de, bon, naturellement, moi et plus, puis Philippe Dorion, surtout.
Donc, de la science-fiction, puisque c'est quand même un de tes axes d'inspiration, quand même assez important.
Oui, ben je te dirais pas tant dans le style ou dans le genre où ces auteurs-là évoluent, c'est plus dans la façon de déployer le dispositif de la bande dessinée. Si on veut Druyet, il y a une façon de créer ces planches qui sont vraiment spectaculaires en fait. Il n'y a pas peur d'avoir des grandes cases ou d'avoir une simple illustration sur 2 pages. Moi, je vois la bande dessinée de cette façon-là. J'ai besoin de temps pour exprimer des petites cases à la Chris Ware. C'est plus difficile pour moi.
Est-ce que ce serait exagéré que de dire que tu vois la page blanche un peu comme une toile, comme un espace quasiment comme la voie galactique, finalement, à parsemer de tes étoiles?
J'aime beaucoup ton analyse. Comme analogie, mais je te dirais que oui, effectivement, je peux entrevoir la case, la planche, comme étant Une œuvre d'art en soi, c'est d'ailleurs toujours une œuvre d'art, mais je le conçois davantage comme une vie dans une optique de beaux-arts. Mais jamais en perdant de vue que cette image-là a suivi une image d'avant précède d'une autre. Donc la suite narrative est extrêmement importante pour moi. Ce qu'on appelle la solidarité iconique, la solidarité entre les images, qui fait le mécanisme de la bande dessinée, qui doit être en bande dessinée. C'est quelque chose qui est central dans mon travail, parce que on me demande moi, de faire une illustration, j'ai plus de l'histoire, il faut que mon illustration soit solidaire de celle qui précède, celle qui suit. Vivement, je suis vraiment, j'étais un vrai bébé.
Non, mais ça, c'est intéressant, parce que ça faisait partie aussi des questionnaires, des questions d'entrevue, parce que, effectivement, tu as publié en galerie, puis tes images sont tellement iconiques qu'à certains égards, certaines ont été vendues comme un tableau en soi. Mais je suis très heureux d'entendre que tu te revendiques définitivement. De toute façon, tes travaux de la bande dessinée sont quand même t'as publié abondamment. Mais c'est ça, donc, pour toi, la question de la narrativité, de la suite, du saut entre les images que le lecteur ou la lectrice va faire pour aller chercher comme une interaction avec ta narrativité, un effort finalement autant intellectuel qu'émotionnel dans la lecture de tes œuvres, c'est fondamental donc.
Oui, bien, tout à fait. Parce que le lecteur, comme on sait, c'est le moteur en bande dessinée. C'est-à-dire, tu as la case A et tu as la case B, puis tu as la gouttière qui se trouve entre les deux cases. C'est l'espace nécessaire au lecteur pour faire le lien entre A et B. Moi, cet espace-là, je fais confiance au lecteur, en fait, je l'élargis. Puis je le laisse faire les liens entre les images. Ils sont là, les liens. Je ne fais pas les choses au hasard. J'arrive pas pour dessiner sur une case, puis je me grâce d'un verre, puis je les retrouve, puis je les passe dans l'ordre au hasard comme ça. Mais non, j'y vais vraiment en suggérant des choses. Et le lecteur, ça lui laisse le temps aussi de ressentir l'image, puis d'aller vers la suivante, puis de comprendre cette narrative avec pas juste une logique mathématique que son cerveau crée, mais ça peut être des émotions aussi.
Christian, si tu me permets un petit retour en arrière par rapport à un BDiste qui, j'imagine, t'es cher en Outaouais, Paul Roux, que tu avais rencontré alors que tu étais, je comprends bien, plus ou moins adolescent. Tu avais participé à un atelier. Paul Roux, si on veut, c'est quasiment l'archétype du BDiste de style franco-belge en terre québécoise. Comment s'est passée cette rencontre-là en deux coups de QRF? Ou qu'est-ce qui a fait? Il y a quand même eu un flair vis-à-vis de toi, parce que j'imagine que tu avais déjà un style qui était quand même assez singulier.
En fait, j'ai rencontré Paul Roux, c'était à l'époque où je suis tombé sur la balade de la Marseillaise. J'ai dû avoir comme 15 ans. C'était pendant la semaine de relâche. La ville de Gatineau organisait des ateliers de bande dessinée qui organisent toujours, en fonction, naturellement.
Oui.
Paul enseignait à ce moment-là, puis moi j'avais été vraiment éco-prate, c'était du copie, là, carrément. Puis Paul m'a amené à découvrir aussi plusieurs auteurs franco-belges. Mais à ce niveau-là, il faut que je remette vraiment le tout mérite à mon prof d'art plastique au secondaire, qui était Jean-Roch Perrault, qui, lui, m'a initié à la bande de médias, qui m'a fait connaître Hilaire Drouillet, moins juste que la culture métal-hurlant. C'est vraiment Jean-Roch Perrault qui m'a fait connaître.
C'est là, ça a dû être une méchante bougie d'allumage de tomber dans cette table-là, si on peut dire.
Ce qui est tellement drôle, là, c'est oui, absolument. Je suis encore aujourd'hui, j'ai des images qui de pervertance de cette découverte-là. Puis, une quinzaine d'années après, je ne sais pas, dans la trentaine, j'ai eu le bonheur de rencontrer le souper avec Jean-Claude Mazan. J'ai vu mon ancien professeur un an après par hasard, puis je l'ai mentionné.
Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs et auditrices, parce qu'on parle de nombre de bandes dessinées, on devrait peut-être les rattacher à des titres. Souvent, les auteurs de bandes dessinées sont tributaires un peu de leurs personnages. Quand on parle de Paul Roux, on parle d'Ariane et Nicolas, de la bande dessinée jeunesse. Quand on parle de Mézières, on parle de Valérian et de la fameuse Laureline. N'est-ce pas?
Oui,
un autre auteur que je me posais la question de ton intérêt pour son œuvre, c'est Baudouin, avec tes personnages qui sont traversés par des oiseaux, par des bateaux, par des trains. que tu as été un cursus aussi à l'Université du Québec en dessinée, en bande dessinée. Et peut-être est-ce que tu as rencontré Baudouin là, peut-être aussi que c'est antérieur à la rencontre de Baudouin que cette façon de faire éclater la tête des personnages.
Ben, je dirais, Baudouin, je n'ai pas eu, parce que moi, je n'ai pas fait de bac en bande dessinée, j'ai fait une maîtrise, puis je prends pas un doctorat en bande dessinée.
T'as sauté des années.
J'ai sauté des années, parce que moi, j'ai une technique en graphisme, en petit collégial, à Ottawa, puis après ça, bon, ben, j'ai commencé ma pratique en bande dessinée pendant, c'est pas une quinzaine d'années avant de retourner à l'université. Mais, Baudouin, je l'ai rencontré comme ça, de professionnel à professionnel, en fait, dans des soupers, pendant un festival, quelqu'un d'extrêmement intéressant, dont l'univers est aussi éclaté, merci. Puis, c'est sûr qu'il y a un côté de son travail qui est tellement poétique que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours parlé. J'ai des amis poètes, d'ailleurs, Jean, qui est un de mes grands amis, pas accompagné, en fait, des travaux avec Baudouin. D'ailleurs, il est dans les études de l'art, l'album des études de l'art, c'est Jean, il vient de la poète. Puis, on a travaillé ensemble sur Cœur d'Arville, il a travaillé sur mes dialogues, tout ça. Donc, je me tiens proche de ce monde-là. Puis, mon univers est extrêmement, comment je pourrais dire, donc, oui, la poésie, pour moi, c'est un complément intéressant à mes illustrations. Parce que le ressenti de la poésie, je peux le transmettre par l'illustration comme telle, par la narration.
Tu me tends une perche en me parlant d'univers. Ton univers, dans le fond, non seulement est peut-être lié à la bande dessinée, mais aussi aux arts de façon très globale. Autant à la peinture, la musique. Quand on parle de musique, t'es assez éclectique, le classique, le folk, le métal gothique, etc., etc. Mais aussi la littérature, le cinéma et l'histoire, les archives. D'ailleurs, c'est ça, en reparcourant à reculons ton parcours, je me suis aperçu que quand tu avais travaillé au niveau d'un collectif en 2008, que tu as dirigé d'ailleurs, Projet Outaouais, tu avais convié aussi Raymond Ouimet, avec qui tu avais commis une première bande dessinée sur les Métis du Manitoba, Le Crépuscule des Bois Brûlés, paru en 1991 aux éditions Vermillon, chez qui tu as publié d'ailleurs quelques bandes dessinées. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur cette effervescence artistique dans ton œuvre.
Ben, disons que, en fait, pour moi, chaque projet, chaque album, c'est des rencontres derrière. Ces rencontres-là demeurent ici pour l'ensemble des jours. L'œuvre, en petit moins, l'œuvre demeure dans le temps ce qu'elle est. Mais on évolue avec ces personnes comme Raymond Ouimet, je l'ai rencontré. En fait, Raymond a été malgré le grand feu. Il racontait une histoire du grand feu de 1900 qui a eu à Hull, qui a rasé comme 40% de la ville de Hull à ce moment-là. Raymond, c'est resté mon ami depuis, c'est même le parrain d'une de mes filles. Donc, c'est mon histoire personnelle et mes collaborations sont intimement liées. Récemment, je viens de faire une grande collaboration avec des criminologues de l'Université d'Ottawa sur la campagne studiant au Québec qui s'appelle « J'avais détruit la beauté du monde ».
On en a parlé sur les ondes de sécurité récemment. On a parlé aussi de Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, que tu as publié sur cet artiste-là aux éditions de l'Homme. D'ailleurs, ça, c'est quand même pas piqué de verre, parce que dans « Vous avez détruit la beauté du monde », qui fait référence aux écrits d'une jeune femme qui s'est enlevée la vie sur la plage Jacques-Cartier en 67, je pense.
En 72, oui.
72? Mm-hmm. Alors, c'est ça. Ça, c'est un livre qui est quand même particulier dans ton œuvre, puisqu'il s'agit d'un documentaire. C'est des criminologues qui t'ont approché pour rendre compte de leurs recherches à un public plus vaste qu'au monde strictement universitaire. C'est quand même extraordinaire, ce truc-là.
C'est un méchant beau cadeau qu'on m'a fait en confiant, en pensant à moi, premièrement, pour faire ce projet-là. Parce que les gens avaient vu Ludwig le Brick, une bande dessinée symphonique que j'avais fait il y a plusieurs années. Puis dans le Brick, il y avait un aspect onirique extrêmement présent. Puis cet aspect onirique-là, qui voulait que je transpose avec le sculpture. Puis parce qu'ils ne voulaient pas avoir des plans naturellement frontales, parce que eux ont travaillé à partir des images des coronaires, des photos des coronaires qui sont vraiment frontales. Pour un lecteur, c'est impossible, en fait, parce que le dispositif de la bande dessinée permet une lecture, comme je mentionnais tantôt, A, B, C, D, E, d'une case, d'une case à l'autre. Et si on arrive avec une image trop forte, trop puissante comme ça, cette image-là laisse des échos dans la suite de la lecture. C'est impossible pour le lecteur de se concentrer sur la suite. Il reste plus. Ça brise la lecture. Donc, chaque projet amène quelque chose de nouveau, un nouveau défi. On amène des nouvelles amitiés, comme je mentionnais, puis Isabelle Perrault, qui était une des têtes de légende du projet, qui a écrit le livre. C'est resté une amie. On veut faire d'autres projets ensemble. J'ai parlé de BDSM, des choses comme ça, là, des ouvrages scientifiques que j'adore entre les deux.
En tout cas, ça promet, et ce livre-là aurait pu être en plusieurs tomes, admettons, parce que ça commence en 1763. Donc, le suicide scénarisé au Québec depuis 1763, c'est le sous-titre de ce livre qui s'intitule « Vous avez détruit la beauté du monde », publié aux éditions Moelle Graphique. Donc, un livre, en tout cas, définitivement à se procurer, à lire. Si vous ne l'achetez pas, proposez-le à votre bibliothèque municipale à tout prix, de façon à faire partager une bande dessinée définitivement hors des sentiers battus. Christian, peut-être un autre élément sur lequel on pourrait parler, j'ai l'impression qu'on pourrait parler comme ça pendant plusieurs heures, mais peut-être choisir un angle qui serait le livre Ludwig que tu as publié en 2013. Celui-là, je trouve qu'il est quand même assez emblématique dans ton parcours créatif, puisqu'il avait été co-publié chez Art Global, un éditeur, et une galerie d'art, Galerie Neige. Ça a été publié en une version trilingue et on parle d'une BD multisensorielle. Pourquoi? Peux-tu nous en dire quelques mots donc de cette BD, Ludwig, qui est quand même une œuvre extrêmement ambitieuse?
Oui, Ludwig, en fait, ça vient de ma résidence. J'étais en résidence à Londres en 2009. Puis, j'ai passé 6 mois à Londres, j'ai visité les galeries là-bas, puis j'ai côtoyé plein d'artistes de plein de pays. Puis, ce que je trouvais, c'est que les gens emmenaient des réflexions vraiment intéressantes par rapport à leur médium en utilisant, comment je pourrais dire, en allant au-delà des frontières, justement, de ces médiums-là. Puis, à un moment donné, je me rappelle toujours, je rentre dans une galerie qui était le couloir était en colimaçon. Puis là, je rentre, puis il y avait une odeur particulière. Puis en rentrant dans la grande salle, on voit un immense sapin, peut-être avec un paquet de sapins sans bon. Je me suis dit, quelle bonne idée. Et
Wow.
puis, l'objectif, comme présenté, on perçoit l'odeur, puis ensuite, on découvre l'œuvre d'art. Puis, là, je me suis dit, qu'est-ce qui est possible de faire en bande dessinée à ce moment-là? Puis, j'ai réfléchi avec des amis artistes là-bas, puis j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait simplement remplacer la trame narrative classique, c'est-à-dire d'un texte, d'un synopsis, par une trame narrative musicale. Donc, créer une bande dessinée synchronique sur une pièce musicale. Au début, je pensais à Maurice Ravel, mais comme personnage, je trouvais plus intéressant Beethoven. Donc, j'ai longtemps cherché une pièce, puis je ne veux pas avoir une pièce trop puissante comme la 5e symphonie, qui est vraiment trop puissante. Mon dessin a été beige à côté de ça. Donc,
Et c'est au sens propre comme au sens figuré, finalement, qu'une bande dessinée multisensorielle et symphonique, parce que c'est ça, l'Orchestre symphonique de Gatineau a joué ton œuvre. En fait, ton
exactement.
œuvre, l'œuvre de Beethoven. Mais disons que. Mais disons, si tu peux placer comment est-ce que c'était des images de ta bande dessinée qui ont été projetées à ce moment-là?
Oui, ben, étant donné que, ben, il faut que j'explique la façon que ça s'est découpé, parce que habituellement, on découpe un texte, on sélectionne des images en fonction de ce texte-là qui correspond à un scénario.
C'est là mon lapsus que je te crédite finalement la symphonie en question, alors que toi, c'était la trame visuelle.
En fait, j'ai connu le concerto numéro 5 d'Allegro sur 20 minutes. je l'ai découpé en temps. Puis, c'est bizarrement, j'ai imaginé certaines scènes, c'était des lettres à l'époque de Beethoven, donc j'ai imaginé certaines scènes en lien avec cette musique-là, comme des thèmes rapides, bon, une course, des choses comme ça. Puis, j'ai transposé ça en bande dessinée. Et puis, chaque page, au lieu d'être paginée, il y a un numéro de page en bas, c'est une image. Parce que les orchestres symphoniques de Gatineau, justement, ils ont enregistré spécifiquement pour le livre. Ça, c'est un peu lourd parce que la sous-culture, entre guillemets, de la bande dessinée, fait en sorte qu'un orchestre symphonique enregistre pour la première fois de son histoire, hein, ça peut faire de ça.
Oui.
Puis, finalement, il y a eu un concert de présenter avec un écran géant. Wow. Puis le chef d'orchestre a vraiment suivi les images, puis ça l'a été ensemble. On a repéré l'expérience, pas tout à fait la même chose avec Félix Leclerc, plus récemment. Mais c'était quand même, comment je pourrais dire, c'est la bande dessinée à se déployer dans l'espace. Moi, je trouve ça intéressant. Dans
ailleurs, c'est ça. À Chicago, je sais que tu as participé à un festival relié à Beethoven, tu as été invité là. Est-ce que c'était avec cette symphonie-là aussi, ou c'était une exposition?
C'était une exposition puis une présentation aussi en salle avec un enregistrement vidéo.
Exceptionnel.
Oui, puis ensuite, je suis retourné deux fois dans le coin de Chicago par la suite à ça. La vidéo a été aussi présentée à Beyrouth. C'est vraiment un défi qu'on fait de voyager. À Beyrouth, c'est drôle parce que c'est quand même assez romantique, Beethoven, Ludwig. Puis il y a des scènes de famille, il n'y a pas de conception, il y a des scènes.
Oui, effectivement, c'est une bande dessinée pour le moins sensuelle.
Ben, à l'université du Liban, les femmes voilées regardaient ça avec un. Ah mon Dieu, ils étaient comme. Ils tournaient la tête. Là. La lecture était différente à ce moment-là.
Oui. Il y avait quelque chose au niveau de la transgression, au niveau du regard par rapport à la sexualité, tout ça, quoi.
J'ai beaucoup aimé observer ça parce que là, je me suis dit, c'est vraiment ça, la perception de l'image, qui est vraiment, nous, on vient avec ce qu'on vit, avec notre bagage culturel, avec notre propre histoire. Même chose avec la société, les gens ont leur propre histoire. Fait, l'image qu'ils reçoivent, sinon, en fait, puis d'une culture à l'autre, ça peut être complètement transformé.
D'ailleurs, c'est ça, bon, tu as des projets comme Ludwig qui sur lesquels tu as pu définitivement même te propulser puis surfer, mais il y en a d'autres qui ont été plus malheureux. Peut-être que le projet sur lequel tu travaillais autour de 2016, qui était inspiré d'un film de Claude Dutroux, je ne sais même pas lequel. Ça, c'est quelque chose qui est demeuré inédit, quelque chose comme 150-170 pages de Christian Quesnel, qu'on a en entrevue ici à CKUT, qui est complètement disparu dans les lignes, n'est-ce pas?
Oui, ben écoute, ça a été une histoire incroyable. C'est arrivé en 2008. Moi, j'avais travaillé parce que quand j'ai rencontré Art Global, Mireille Carmoyen, elle, son mari était veuve à ce moment-là, mais son mari, dans les années 70, avait reçu la visite de Claude Dutroux. Puis Claude Dutroux voulait faire un livre à partir d'un film qu'il avait fait, mais juste le scénario, mais il n'avait pas réussi à faire le film, à le tourner.
Non, donc c'est un film inédit en plus.
C'est un film inédit, c'est un scénario inédit. Date de 1967. Puis c'était, en fait, drôlement, c'était la bande dessinée la plus joyeuse que j'ai fait. Remets-toi dans la fin des années 60, l'esprit de l'Expo 67, toute l'effervescence, la Révolution tranquille.
Ben, si on se souvient aussi de son film À tout prendre aussi, il y avait quelque chose de Guilleret, de Primostier, de bondissant, si on peut dire.
Exactement. C'était très coloré aussi. Donc, cette bande dessinée-là, l'éditeur global m'ont proposé le scénario, parce que le scénario dormait, parce que bon, je trouvais en vente dans les années 80 et puis qu'il y a moyen dans les années 2011, je crois. Il restait juste ce projet-là qui était resté sans suite. Puis là, moi, Mireille Carmoyen m'a remis et m'a demandé ce que je voulais en faire une bande dessinée. Puis bon, au début, la première fois, je me suis dit, non, c'était pas possible, c'était une comédie musicale en passant. Puis, je me suis dit, c'est pas possible, après une c'est quand même meilleur que ça. Moi, j'aime bien revu les livres. Puis, à ce moment-là, je me suis mis à le faire. J'ai eu une bourse qu'on fait les arts de la Québec pour le faire. Puis, j'ai travaillé là-dessus pendant 2 ans, 170 ans, je vois, inédit. Un jour, peut-être, on sait jamais.
Puis, qui sait, on se le souhaite. Personnellement, j'aimerais bien voir la couleur.
Ben, en fait, la forme, c'est marinaire. Il y a beaucoup, à la fois une bande dessinée et un roman photo.
Oui.
C'est assez particulier. Ouais, c'est poussé vraiment le collage, le côté, comment je peux dire, donc, le côté hyper réaliste, tout en conservant des fragments du scénario, le travail de la main de Dutreuil lui-même.
Ben tiens, justement, parlons-en du côté graphique, du côté peut-être polymorphe de ton œuvre. Parce que pour le bénéfice, comme on est à la radio, peut-être est-ce que c'est difficile, peut-être des gens qui nous écoutent imaginent ton travail à partir de sujets dont on parle, mais se font peut-être une idée erronée de la chose. Tu parlais donc de ton projet de maîtrise en art contemporain, qui a d'ailleurs été publié sous le titre Advocatus Diaboli en 2019 chez l'éditeur Moelle Graphique. Ton style graphique, finalement, bon, bien sûr, tu n'as pas généralement, en tout cas, plus ou moins des planches avec une série de cases. Tu vas souvent t'étaler sur une page, deux pages. Tu vas faire exploser ton dessin dans une espèce de rayonnement. Tu vas y coller des morceaux. Tu vas superposer des images. Les images vont être en transparence. Il va y avoir des taches. Qu'est-ce que tu pourrais... Bon, un autre de tes spécialités sont des genres de tapisseries que j'ai vues dans plusieurs de tes œuvres étalées sur différentes années. Est-ce que tu es tapissier dans une autre vie?
Non, absolument pas, mais je te dirais que l'idée des collages, je veux vraiment pousser cette vision au maximum avec le projet du sport personnel, pratiquement. Malgré quoi qu'il y ait quelques planches qu'on peut voir. Mais je dirais que effectivement, je travaille beaucoup avec le brosse à dents, puis à un moment donné, ça grossit, ça prend beaucoup de place. Et, comme le brosse à dents, à un moment donné, dans le quart d'arrêt, il a pris beaucoup de place pour devenir moins présente après ça dans les collages, c'est la même chose. C'est des éléments que je pousse au maximum, puis ensuite, ça revient une place, puis ça reste quand même dans mon parcours. Donc, la brosse à dents côtoie maintenant les textures. Avant, ça revient à l'acrylique, comme le gris était fait à l'acrylique. Mais maintenant, je travaille à l'aquarelle. Donc, c'est toutes des choses, c'est toutes des techniques que je conserve. Au début, je travaillais à la gouache.
Termines comme certains artistes qui ont une base traditionnelle, puis qui terminent après ça en travaillant avec des logiciels, ou tu es définitivement un type qui travaille, un artiste qui travaille au niveau traditionnel?
Vu que c'est exactement l'inverse, en fait. Parce que oui, ma facture, elle est traditionnelle parce que l'original, pour moi, est important. C'est une source de revenus importante, vu que je vends mes originaux. Par contre, en début de processus, vu que j'inscris cette approche de la photographie, ça, j'utilise la photographie. J'utilise Photoshop pour créer mes esquisses. Donc, c'est carrément à partir de Photoshop que détermine les espaces, que détermine les mouvements, puis tout ça. Puis ensuite, tout est transposé sur papier, puis là, je fais l'œuvre carrément en peinture après.
Oui.
Donc, mais des fois, je peux arriver en dernier quelques petites retouches sur l'ordinateur, comme rajouter un document d'archive en transparence sur une illustration que j'ai fait. Ça, je le fais souvent.
Christian, je crois comprendre que tu as eu une implication ou que tu as une implication sur le plan éditorial chez l'éditeur Moelle Graphique. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots?
Oui, bien en fait, justement, je me suis toujours intéressé à l'édition. À l'époque, j'étais à la tête du studio Première Ligne, qui était une coopérative qui avait été fondée par l'étudiant au bac en bande dessinée. Je parle à l'époque, je parle de 2017, 2008, dans ce coin-là, à l'époque du projet Outaouais. On était une bonne gang, on était une trentaine d'auteurs de bande dessinée, on s'était regroupés, puis on publiait sur une base régulière. Par la suite, j'ai quitté pour me consacrer plus à l'editing, des choses comme ça, des projets comme plus ambitieux. Et j'ai toujours gardé un intérêt pour cet aspect-là du travail de notre éditorial. Maintenant, je travaille, bon, avec ma belle gang de Québec, là, qui sont Julien Poitras,
avec qui je communique souvent, puis Jeff Kenning, Alain Dufour, c'est tous des gens avec qui j'aime travailler. Puis ensemble, on a 1 million de membres définis, qu'on ne voyait pas nécessairement représentés dans le monde éditorial au Québec. Puis on s'est dit, bon, ben voici, nous, on peut appliquer notre pierre au bel édifice qui est déjà en place au Québec, mais en ajoutant une vision éditoriale qui est complètement différente des autres. Puis l'édition, les anciennes éditions triples qui sont jointes avec Marc Tessy, qui sont jointes au projet de Moldographie. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je suis impliqué à ce niveau-là. Okay. Avec eux pour partager mon expérience, on sort avec Julien.
Peut-être faire un petit retour aussi sur les prix que tu as gagnés, parce que tu en as gagné des solides. En 2008, le prix à la création artistique pour l'ensemble de ton œuvre au Conseil des arts et des lettres du Québec, et tu étais le premier BDiste à recevoir ça. L'année suivante, en 2009, tu parlais là, de ta résidence à Londres, en Angleterre, et ça, c'était une première aussi pour le studio du Calque. Tu as également, je pense, en 2018, obtenu une résidence en Bavière, en Allemagne. Tu as pu te promener tes baskets, quoi.
Oui, merci, oui. C'est privilégié quand même à ce niveau-là. Puis le prix du Calque, bon, c'est pas dans le milieu de la bande dessinée, là, on n'en entend pas tant que ça parler, mais j'ai été chanceux, j'ai rencontré 3 fois. Puis c'est quand même des prix assez substantiels qui donnent un bon coup de main aux créateurs. Puis si on peut faire en sorte que la bande dessinée puisse justement dépasser certaines frontières puis aller sur le même terrain que les autres formes d'art, on va démontrer que le médium a beaucoup évolué, puis la perception qu'on en a évolué et peut encore évoluer.
Ben, à propos de ça, peut-être que parachever cette entrevue-là en parlant, outre, bon, on a parlé quand même de tes 2 dernières publications, là, Félix Leclerc, L'Alouette en liberté aux éditions de l'Homme, et Vous avez détruit la beauté du monde chez moi, le graphique, en 2020, sur le suicide. Mais tu as quelque chose qui est sur le feu, qui était une bourse sur 2 ans que tu as obtenue pour travailler sur H.P. Lovecraft, un 300 pages. Est-ce que tu veux nous donner un avant-goût et quand est-ce que ce sera publié, que cette bande dessinée-là?
J'aimerais ça pouvoir vous préciser à ce niveau-là.
Ah!
Mais je peux te dire que, bon, le projet au départ était de 300 pages. On l'a réduit à 160 à peu près. Il m'en reste une quinzaine de planches à terminer. Puis je vais terminer ce projet-là au niveau de la création. Mais on vise de sortir pour l'automne 2021.
Et tu vas le sortir chez moi, le graphique, j'imagine?
On ne sait pas encore. On ne sait pas. Ça, c'est pas bouclé encore. C'est pour ça que ça m'a fait plus précis. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que en chevauchement avec le suicide et avec le retrait, j'ai aussi travaillé sur Mécanique. C'est une bande dessinée documentaire, un pamphlet, on peut le dire comme ça, avec Anne-Marie Saint-Cerny, qui est l'autrice de l'essai, là, qui était publié chez Co-Société, avec sa femme Mécanique, puis qui a remporté le prix Pierre Boncœur. Cette œuvre-là risque de faire de brosser pas mal la carte, parce qu'elle pointe des choses en amont et en aval des événements. Comment que le pétrole a été utilisé dans le Dakota du Nord, il y a plein de choses. Comment le ministère des Transports du Canada a été incroyablement, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire, c'est-à-dire de protéger les gens. Puis, ils ne veulent pas qu'on aille gratter non plus. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça de ce travail-là, médiatique, qui, lui, va sortir en 2021 aussi. J'espère que Lovecraft et Mégantic ne sortiront pas en même temps parce que l'un et l'autre ont besoin ils ont besoin de tout l'espace pour qu'on en parle. Parce que c'est 2 œuvres complètement différentes, mais il y en a une qui, socialement, est très, très étonnante.
Et est-ce que tu as travaillé de la même façon sur le plan graphique pour H.P. Lovecraft, puis pour le projet Mégantic, par exemple?
En fait, c'est deux. Écoute, il y a un récit qui raconte l'histoire du Québec, de la ville de Québec, précisément, que Lovecraft est venu en 1930. Donc, il y a tout un univers de Lovecraft, son univers fantastique, il le transpose dans l'histoire du Québec.
Ah oui.
Visuellement, ça donne un mélange de, comment je peux dire, donc, Friday the 13th et Frontenac.
Ah oui. Wow.
L'univers est éclectique, donc je m'en sers de plus en plus en banque. Tandis que Mégantic, on est beaucoup dans la symbolique. Beaucoup comment je peux dire, le dispositif de bande dessinée sert énormément à avoir un propos pamphlétaire qui à montrer aux gens que les drames, comment on peut se sentir face à des drames. Puis l'illustration, puis la lecture, la bande dessinée permet de passer des sensations. On l'a vu dans le livre, vous avez détruit la beauté du monde, je m'en suis servi beaucoup de ça. Ben, je m'en suis servi aussi beaucoup dans mes dents. Il devrait sortir, comme je disais, là. Je ne sais pas si ça va être au printemps ou à l'automne.
Est-ce que tu sais le projet Mégantic, chez quel éditeur il va sortir?
Oui, c'est les éditions Éco-Société.
Carrément. Donc, tu vas être le troisième roman graphique à paraître chez Éco-Société.
Oui.
Je pense qu'il y en a eu deux autres auparavant.
Ouais,
il y a eu un truc vegan, mais il y a eu un truc sur, je pense,
l'évasion fiscale, en fait.
Oui, l'évasion fiscale, c'est ça, une transposition de Deneau, si ma mémoire est bonne.
Oui, exactement. C'est Samson Dunlop, qui est un autre auteur de bande dessinée, un peu de Kawa,
Mais écoute, je veux dire, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il va falloir qu'un auteur se penche sur l'ensemble de ton œuvre et fasse un bouquin parce que c'est extrêmement foisonnant. J'avoue, pour les besoins de l'entrevue ici à CKUT 90.3 FM, j'ai eu beaucoup de travail à faire et j'ai l'impression que j'en ai utilisé une infime partie. Et c'est ça, j'imagine, le lecteur ou la lectrice qui s'intéresserait à un ou l'autre de tes livres et qui aurait un choc et qui déciderait d'aller à l'aventure dans ta bibliographie. Bon sang, ce sera pas simple de tout trouver, là.
Non, vraiment pas. En plus, ça s'étale sur près de 30 ans. Donc, j'ai un ami l'été dernier chez moi, Michel Tellier, qui organise des rendez-vous de la bande dessinée à Québec. Puis j'ai retrouvé devant mes 30 ans d'originaux. Donc, j'en ai vendu quand même. Il y en a encore pas mal. Puis, il ne savait pas par où commencer, justement.
Ben, écoute, Christian Quesnel, Quesnel, pour le bénéfice de ceux et celles qui chercheraient sur le net pour trouver, peut-être tu pourrais mentionner ton site Internet qui serait peut-être un excellent point de départ pour quiconque voudrait aller plus loin à partir de cette entrevue-là.
Oui, ben écoute, questionquesnel.com, tout simplement. Les gens peuvent aller là. Puis, sur Google, on trouve plein de choses aussi sur ce que j'ai fait, mon parcours, tout ça. Donc,
il y a juste moi qui trouve rien. Ben écoute, un gros merci pour tout ça. Et c'est drôle parce que quand on s'était croisés dans ta région, dans un projet à hauteur d'enfant, c'est ça, je t'avais trouvé infiniment modeste de te retrouver là à dessiner des histoires pour enfants, puis t'avais pas de l'air du tout que t'es, mais pourtant, on reconnaissait une patte magique, des pinceaux magiques, et ça m'a pas trompé, par contre.
Mais vraiment, il faut jamais oublier quelque chose. Moi, c'est Gilbert Chartier, le grand maître de la bande dessinée de Béonésine, qui m'a dit ça. Et j'ai eu la chance de passer un après-midi avec lui, puis il m'a dit, moi, je fais des comics. C'est ça. C'est simple comme ça. C'est sans prétention, mais c'est tout ce que c'est.
Ben, c'est d'autant plus beau. Merci beaucoup, Christian Quesnel, pour cette entrevue fleuve, et d'ailleurs, qui est truffée de trois musiques que Tamara, bonne chance pour...
Pas de recommandation aujourd'hui, Ramon?
Oui, absolument.
OK. Ce serait quoi?
Est-ce qu'on...
qu'on fait une interruption?
Non, mais je m'attendais à ce que tu recommandes la musique sur laquelle on se laisserait.
Oui, j'avoue que je me suis lancé dans l'interview, puis...
Parce que moi, je ne veux pas choisir, là, c'est rendu trop compliqué, là.
Je pense que pour le but, en fait, c'est clair.
Oui, pour Félix Leclerc, c'est... Puis quand on parle de Ludwig, de Beethoven, dans le fond, on peut mettre la Beethoven, puis peut-être à l'endroit où ce serait plus entre vie fleuve qu'on pourrait rentrer le métal, le folklore métal, le premier choix.
Parfait.
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es bonne pour ça, Tamara? Je m'excuse, finalement.
C'est correct.
J'ai manqué mes obligations d'intervieweur.
Ah, oh, c'est bien correct. Inquiète-toi pas, là. C'était vraiment le fun à écouter. C'est du très, très bon contenu, mais je pense que vous devrez vous reprendre pour une partie 2 à un moment donné, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler.
Il y a deux belles occasions qui s'en viennent. Il y a deux livres qui s'en viennent tranquillement. Fait que...
Faut parler. Ramon, il y a une bande dessinée, un collectif qui sort au point graphique sur une biographie de René Lévesque.
Ah, OK. Ça, c'est chez moi, le graphique?
Oui, c'est Marc Tessier qui a scénarisé ça, Marc est à Montréal. Chaque chapitre est fait par un dédié différent. Marc a tout scénarisé, là, mais vraiment, c'est un dessinateur différent pour chaque chapitre. Écoute, il y en a une, Jordan Ménard, elle a comme 50 planches dans son chapitre.
Oh, wow! Ça c'est à paraître très bientôt?
Ça devrait être mois d'avril ou plus tard. Comment tu sais? C'était prévu pour sortir pour le programme de Québec BD, mais là, je pense pas qu'il y en ait.
Non.
Ouais, malheureusement.
Bon, ben, je vais le mettre au parfum du côté de Marc. Ça, c'est d'ailleurs, c'est un petit bout de temps, je n'ai pas parlé. Fait que peut-être que ça pourrait être une opportunité d'inviter ce grand maître du scénario puis de la bande dessinée photographique aussi.
Oui, Marc, ça serait vraiment la personne idéale pour ça.
J'imagine qu'il y a une BD photographique là-dedans aussi.
Je crois pas, non. Tu sais, c'est vraiment du dessin. Il manque Valium, il n'y a pas de façon là-dedans.
Bon, je te reparle d'un truc particulier lié à ta passion des oiseaux. J'ai un ami qui publie un livre qui a traduit, en fait, sur des oiseaux. Puis je sais qu'il y en a partout dans tes livres. Fait que je te donne un coup de fil à ce sujet-là.
OK, bien écoute, ça me fait plaisir de te reparler, Romain.
Impec, merci beaucoup. À bientôt, au revoir.
Supporter le difficile et l'inutile. Il y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, il y a le tour de l'île, l'île d'Orléans, l'île c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors et des falaises. En février, la neige est rose, comme chair de femme. Et en juillet,
Le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous, les gens des descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai. Écoute encore. Clocher pointu. Et dans les fonds des pâturages, de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre. Imaginez. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire soleil, l'île d'Orléans. Notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est-y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie. L'heure est venue, si t'as compris.
Pause musicale, et on est toujours avec nous, Ramon Vitesse, pour un petit update avec sa chronique BD. Alors Ramon, alors on repart.
Bonjour Tamara, on repart. Alors, on va commencer, on va travailler avec des animaux, avec la nature. C'est un thème qui est extrêmement porteur en bande dessinée au niveau des processus narratifs, puis aussi au niveau iconographique. La première proposition, elle est de l'auteur Johann Svahr. Ça s'écrit bien sûr avec un J, J-O-A-N-N, Svahr, S-F-A-R. AR, et il nous interprète la chanson de Renard. C'est publié chez Gallimard Bande dessinée, et d'emblée, le premier tome de ce qui semble être une série s'intitule « Le Seigneur des Entourloupes ». Wow. Alors voilà, on a un renard qui semble définitivement roublard. On le voit avec une grande dague, une grande épée, le pied sur un crâne avec un brelan d'anse. Voilà, c'est le renard. Donc, on est à l'époque médiévale, une époque que l'auteur Johann Farr, qui est réputé publier de façon pléthorique, quasiment comme de la diarrhée, quoi, si on me passe l'expression, qui est un peu pipi-caca, je m'en excuse, mais définitivement, Johann Farr dessine de façon compulsive et multiplie les collaborations. Je pourrais dire, sans trop me tromper, qu'il a publié plus de 75 livres. Alors, c'est un des personnages du renouveau de la bande dessinée contemporaine avec, entre autres, Lewis Trondheim, avec lequel il a collaboré. Dans ce livre-là, donc, il avoue avec beaucoup de plaisir renouer avec un personnage qui est définitivement rusé, qui est à la fois, à l'occasion même, méchant ou violent, puisque le loup, son compère, a souvent est souvent la victime de ses coups bas, finalement, ou de ses mauvais tours. La chanson de Renard, ici, c'est colorée par Brigitte Fincali, et c'est dessiné comme on connaît la plupart des livres de Johann Farr, c'est-à-dire avec des cases qui sont arrondies, avec une écriture manuelle. On est dans un monde féerique, mais aussi terrible. Ça meurt. Et c'est ce que revendique Johann Farr dans un espèce de petit texte à la fin de ce livre-là, dans lequel il remercie ses grands prédécesseurs, à savoir le conteur Benjamin Rabier, Samivel, Beuville, Uderzo, qu'on connaît trop bien avec son complice Goscinny, et aussi le fameux auteur jeunesse qui est Quentin Blake, le Britannique. Donc voilà, l'idée, c'est que tous ces auteurs-là que je viens de nommer se refilent la fameuse carcasse du goupil, c'est-à-dire donc de notre renard. Donc, la chanson de Renard, une interprétation vraiment sautillante par Johann Farr, publiée chez Gallimard. Dans un tout autre ordre d'idée, un livre pour enfants, un livre jeunesse, on le sait, j'apprécie les images, j'apprécie le dessin, et souvent les livres dits jeunesse sont suffisamment solides pour intéresser un adulte. D'ailleurs, personnellement, pour moi, un bon livre jeunesse, c'est un livre qui parle aussi aux adultes. Sinon, c'est qu'on traite les enfants comme des jeunes crétins ou des imbéciles, et ce serait leur faire ombrage, parce que c'est pas du tout ça que sont les enfants. Le livre s'intitule « Un mouton au pays des cochons ». C'est publié chez les éditions Amaterra par deux autrices, Alice Brière-Aquet et Pénélope Pêcheleur. Alors voilà, on est dans le pays des cochons. Le mouton, qui est ni plus ni moins une métaphore de l'arabe, ou de l'étranger, si on préfère, de façon plus large, se trouve donc à habiter dans un pays peuplé de cochons. Évidemment, la peau rose, c'est un peu l'occidental moyen. Donc, les gens se regardent de travers, les cochons se méfient de notre mouton, et un événement va survenir. Le cochon voisin de ce mouton va se blesser en tombant dans un égout. Alors, le mouton, sur le coup, laisse tomber son préjugé à l'égard de son voisin et va le secourir. à partir de cet événement-là, les deux vont devenir, si on peut dire, copains comme cochons, ou vont se frotter, vont se gratter la laine mutuellement, puisqu'ils deviennent amis totaux. Un très beau livre, justement, sur la question du racisme. Peut-être que la meilleure des préventions, c'est au niveau de l'imagination, au niveau de la créativité, et ce livre-là, définitivement, serait de ce tonneau. Donc, un mouton au pays des cochons, par Alice Briard-Aquet et Pénélope Pêcheleur, publié chez Amatera. Un dernier petit livre, c'est vraiment un tout petit livre, publié chez Loyd Cravant, qui fait dans la poésie graphique. Ça s'intitule « Le petit guide qui plan d'or » et l'auteur est le Québécois ici, Michel Hellman. Michel Hellman donne ici une réplique au fameux plan d'or du gouvernement Charest à l'époque, des fameux plan d'or, donc des libéraux, le développement économique à tout craint du Grand Nord québécois. Alors voilà, c'est à peu près sans parole aucune, et à la fin, on va voir personne des Premières Nations qui se retrouve avec qui c'est un sac avec de la colle. Avec donc c'est littéralement l'assassinat de la nature dont il est question dans cette métaphore. Très beau petit livre en noir et blanc, un livre définitivement très fort et certes méconnu. Le petit guide du plan Nord par Michel Hellman chez Loyd Cravant. Et pour s'achever, peut-être une musique qui nous vient de l'Ouest canadien, du groupe Immaculate Machine, qui n'existe plus, un groupe dans lequel était notamment Catherine Calder, et on va entendre donc une de leurs chansons francophones, puisque un des membres avait étudié la langue française à l'université et ils ont fait un petit album, Les uns mais pas les autres, qui se trouve sur étiquette Mint Record, et on va écouter écouter une chanson qui s'appelle Ne pars pas sans nous.
Génial. Merci beaucoup, Ramon.
Merci. Ben voilà.
S'il te plaît, ne pars pas sans nous.
S'il te plaît, ne me laisse pas tomber.
Nous chantions ensemble la chanson du gamin qui a abandonné ses amis quand il a rejoint le Riot Squad.
Eh bien, nous voici maintenant.
La pandémie de COVID-19 est une situation sérieuse. Il faut continuer d'appliquer toutes les mesures de santé publique. Suivez les consignes locales sur les rassemblements, pratiquez la distanciation physique, lavez vos mains, portez un masque et téléchargez l'appli Alerte COVID. Si vous avez des symptômes, même légers, restez à la maison. Protégeons-nous les uns les autres. Détails au canada.ca/le coronavirus ou au 1-833-784-4397. Un message du gouvernement du Canada.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
From New York, this is Democracy Now!
Because you all have done the work, you all got us a seat at the table. We have worked with the Biden administration to secure commitment on a $2 trillion climate plan. $2 trillion. But we're not going to stop there. We're not going to stop with a piece of paper. That's not what's going to happen. We're not going to forget about that agreement for the sake of an election, are we?
Indigenous racial justice and climate activists staged an occupation dubbed Biden Be Brave outside the Democratic National Committee headquarters in D.C. Thursday, calling on the president-elect to take immediate climate action and approve the Green New Deal. We'll hear from Congress.